25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus sur Radio Immo.
Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast de 25 millions de propriétaires, l'émission par les propriétaires pour les propriétaires et bien sûr pour tous ceux qui s'intéressent à la propriété de près ou de loin. Nous aborderons aujourd'hui avec nos invités la question du tourisme rural, les opportunités d'investissement pour les propriétaires et les répercussions sur le développement économique des territoires. De nombreux élus et acteurs locaux s'en sont saisis et en ont compris l'enjeu. J'accueille aujourd'hui Emmanuel Maril, directeur général d'Airbnb France, plateforme internationale de mise en relation de propriétaires et d'hôtes, et Christophe Marchais, directeur général adjoint d'ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnel de tourisme. Mais tout de suite, l'édito.
. 25 millions de propriétaires, l'expertise.
Alors, est-ce le retour de l'ère des territoires et le début de la diaspora urbaine? La crise sanitaire que nous vivons a révélé un manque d'espace dans l'habitat, des zones denses notamment, l'envie d'avoir un extérieur pour s'échapper, un rapport au travail différent et une remise en question du 100% bureau a beaucoup questionné les entrepreneurs et les salariés, un regain d'intérêt pour le tourisme en France dans l'ensemble des territoires et la mise en valeur de la ruralité, de sa manière de vivre, loin du tumulte des villes. Certains souhaitent avoir une résidence secondaire, d'autres souhaitent tout bonnement déménager, même dans des territoires a priori moins attractifs. Et puis, un nouveau phénomène se développe, le télétravail délocalisé temporaire pour quelques semaines, un long week-end, voire plusieurs mois, l'occasion de louer avec plusieurs personnes ou tout simplement en famille un tiers-lieu bien connecté qui n'est pas nécessairement un établissement de bureaux partagés traditionnels. Mais la crise économique va-t-elle avoir raison des ambitions individuelles de chacun? Est-ce un mouvement ponctuel lié aux circonstances ou durable et de fond qui va redessiner nos rapports aux grandes zones urbaines, métropolitaines, les villes moyennes et les territoires ruraux? Il n'est pas impossible que les entreprises doivent durablement se réorganiser face à une décentralisation massive de l'activité économique. L'impact sur le marché de l'immobilier, d'habitation et de bureaux est certain, mais est-ce uniquement au profit des métropoles extra-parisiennes? Pour commencer, je vous propose d'écouter les témoignages de propriétaires par notre reporter Nicolas Tarade.
C'était Destination France cet été pour des millions de Français, un cru 2020 inédit, vigoureusement marqué par la crise liée à la Covid-19 et un panorama forcément chamboulé. Il y a eu celles et ceux qui avaient leurs habitudes et qui ne les changeraient pas quoi qu'il arrive. Il y avait aussi ceux qui craignaient l'agglutinement de centaines de personnes sur les plages, mais qui se sont tout de même rendus dans les établissements du pourtour méditerranéen par exemple. Et puis la dernière catégorie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui, des milliers de Français qui ont privilégié le tourisme responsable, le tourisme vert, rural, dans des zones parfois bien calmes, les mois de juillet et août, en Occitanie, dans l'Aude, en Bretagne, dans les Hautes-Alpes, en Creuse, en Limousin. Tous les propriétaires à qui on a parlé disait ne pas trop savoir à quoi s'attendre le jour du déconfinement. Et puis d'un coup, voilà, miracle, ça s'est décanté. Patrick Lebourg possède des gîtes en Limousin autour du lac de Vassivière, à cheval entre la Creuse et la Haute-Vienne. Même aujourd'hui, ce propriétaire n'en revient toujours pas.
Ah, ça a été une sacrée situation. Lorsque pendant deux mois, pendant le confinement, qu'il a fallu tout annuler, tout rembourser, et après on a eu zéro téléphone, on a eu le vide complet. Et là, il y a eu un gros flip quand même. On s'est dit, mince, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Dès que la France a été libérée, hein, il y a eu les 100 km, mais ça n'a rien donné. Dès que la France a été libérée au niveau des distances, hein, là, il y a eu un truc incroyable. J'ai jamais vécu ça dans ma vie. Le téléphone s'est mis à sonner sans interruption. On a rempli, en deux semaines, on a rempli pratiquement deux mois et demi des réservations autour du lac. C'était impressionnant.
Donc si vous aviez eu 50 gîtes de plus, ils étaient remplis?
Ah ben complètement. On remplissait l'intégralité, hein, et sans aucun problème. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, là on est quand même début octobre, c'est que ça continue à appeler pour réserver.
Un taux de remplissage, on l'aura compris, très fort cet été dans plusieurs régions de France. En Creuse, selon le président du label Gîtes de France, les propriétaires creusois ont récolté un chiffre d'affaires supérieur de 150 000 euros par rapport à l'an passé. Alors pas de quoi rattraper pour autant la saison complète et les deux mois de confinement, mais que ça fait du bien, de l'aveu de tous. Et puis surtout, ils ont récupéré en partie une clientèle française habituée des destinations à l'étranger, all inclusive, avec donc un budget important, un budget qui a pu irriguer l'économie locale, le bistrot du coin, le bureau tabac, bref, les petits commerces. Patrick Lebourg vit dans le coin depuis assez longtemps pour connaître tout le monde. Il confirme, les touristes ont consommé local.
Ça a cartonné, hein. Franchement, le mot est faible. C'est vraiment cartonné, hein. Les restaurants étaient pleins, ils nous refusaient tous les jours. Les épiciers, dont un à Royères, avaient installé une deuxième caisse dans son épicerie pour pouvoir fournir et dégager le magasin rapidement parce qu'il y avait trop de monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Les anciens du village, qui ont connu l'époque des Hollandais, les grosses époques, hein, avaient jamais vu autant de monde en si peu de temps cet été.
Il n'y avait quand même pas des bouchons autour du lac de Vassivière.
Mais les parkings ne pouvaient plus absorber le nombre de voitures non plus. Hein. À Vauvray, ça débordait jusqu'au panneau de l'entrée du village. Il y a deux relais qui vont être installés autour du lac parce qu'on en manquait cruellement de réseaux corrects. Il faut une 4G puissante, parce que ça saturait par moment. Il y avait tellement de monde qu'on peinait parfois à avoir des communications propres. Hein. Ça, il y a deux gros roulets qui arrivent, qui vont nous aider à couvrir correctement le département, parce que on a le télétravail qui arrivait aussi. Hein. Il faut qu'on puisse avoir un système internet puissant pour envoyer, pour que les gens puissent travailler dans les gîtes ou chez eux. Ça, c'est très important. Il faut pas qu'on loupe cette porte ouverte qui est magnifique. Hein.
L'enjeu va bien au-delà de la simple réservation de logis. C'est une véritable manne économique pour tout un tissu local, ce qui induit implicitement une responsabilité collégiale, aussi bien des propriétaires, des commerçants que des pouvoirs publics. Les zones blanches existent encore en France, il n'y a pas non plus de couverture 4G sur tout l'Hexagone, ce qui peut freiner le développement économique de quelques territoires ruraux qui auraient pu accueillir des citadins en télétravail. Il faut aussi des infrastructures routières efficaces, des gares, bref. Dans ces territoires ruraux, découverts cet été par des dizaines de milliers de Français, on ne veut pas manquer ce tournant.
Emmanuel Maril, je vous fais réagir à chaud sur ce reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez constaté ça, vous, sur votre plateforme, sur les locations dans les territoires un peu ruraux, comme on peut le voir ici dans la Creuse?
Oui, bien sûr. Oui, c'était cette fameuse tendance de l'été. Je trouve que c'est très bien exprimé. On n'a jamais vu ça. Un arrêt presque des réservations mars, avril, mai, début mai. Et ensuite, un rattrapage en quelques semaines des réservations. À partir du moment où on a commencé à dire aux Français, vous pouvez prendre vos vacances, que les messages étaient clairs de la part du Premier ministre et de Jean-Baptiste Lemoyne, on a vu une augmentation très, très, très sensible des réservations. Et les gens voulaient absolument être chez eux, se sentir chez eux. Donc, un petit extérieur, une piscine, un barbecue, enfin des choses finalement estivales. Et cette grande, grande accélération qu'on continue à retrouver, donc c'est un tourisme domestique, assez local, les gens ne vont pas non plus des milliers de kilomètres, assez authentique. Et quand on est français et qu'on veut rester en France alors qu'on est pour habitude de partir à l'étranger, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un petit peu, un peu atypique, un peu nouveau, un peu une expérience, quelque chose d'assez spécial. On ne va pas aller s'entasser avec les autres. Donc on va essayer de trouver, on va le creuser, on va aller un peu plus loin. Et c'est vrai que les 3 mois ont été assez impressionnants. Et là, on continue à avoir une tendance, je pense avec les vacances de la Toussaint d'ailleurs, on continue à avoir des réservations, avec des fenêtres de réservation assez courtes. L'incertitude crée ce type de réflexe. Hein. Évidemment, on attend et ensuite on réserve. Et quand on réserve, on essaie de réserver avec des conditions d'annulation relativement flexibles parce qu'on ne sait jamais. Voilà.
Et est-ce que ce serait justement une tendance de fond? Est-ce que... Tout d'abord, et puis, est-ce que le rattrapage a été complet par rapport à ce qu'il y a eu le creux, hein, la fin des vacances d'hiver et puis le début des vacances d'été, le début de la saison d'été avec les mois de mai et juin? Est-ce que le rattrapage s'est vraiment opéré pour tous ceux qui habituellement partent plutôt à l'étranger, en Europe ou ailleurs, sur nos territoires, et entre les villes et les territoires plus ruraux, justement?
Il y a pas mal d'enjeux de rattrapage, mais je pense que ça sera... Christophe va pouvoir le détailler bien mieux que moi, parce que les dynamiques sont intéressantes en France, mais... Il y a des grandes villes, à mon avis, dans lesquelles il n'y a pas eu de rattrapage. Il y a des endroits qui sont vraiment faits pour le tourisme international, je pense à la Côte d'Azur, etc., où, à mon avis, là, le rattrapage n'a pas non plus été complet. Et en revanche, il y a des endroits qui étaient un peu absents du tourisme jusqu'à présent, où là, il y a eu plus qu'un rattrapage, puisqu'il y a eu une nouveauté. Je pense à l'arrière-pays, la campagne, vraiment le rural, etc. Alors là, pour le coup, ce n'était pas des zones forcément très touristiques les étés précédents. Là, donc, on ne parle pas de rattrapage, on parle de nouvelles tendances. La question de fond, c'est est-ce que ça va durer? Et je trouve que le monsieur a encore dit dans votre petit reportage a encore dit une chose très intéressante, c'est effectivement il y a le télétravail, il y a les tendances un petit peu sociétales qu'on voit naître de gens qui n'ont pas forcément envie de rester, qui peuvent travailler à distance, n'ont pas forcément de contraintes locales et qui se disent bah oui, mais pourquoi pas carrément partir, et non pas en périphérie des grandes villes, mais même mise au vert, quoi, complètement. Et ça, ça va être un sujet, effectivement. Et là, il y a quelque chose. Alors, faut se diviser dans ces cas-là de ne pas être trop tarte à la crème ou trop boule de cristal, vous voyez. Mais je pense quand même que quand on vit ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire un marathon, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui dure plusieurs mois avec cette crise sanitaire, ça laisse des séquelles qui vont durer, qui durent. Et je pense que les gens vont hésiter, enfin réfléchiront à deux fois en tout cas, avant de reprendre un avion pour aller faire 15 000 km pour y passer une semaine à l'autre bout du monde. Et je pense que ça risque de changer un petit peu. Et puis les Français qui ont redécouvert la France cet été et qui ont redécouvert leur territoire, peut-être qu'ils sont tombés amoureux une deuxième fois de leur pays. Et donc, ils auront peut-être envie d'y retourner l'été prochain et les étés suivants, en fait. On est assez fidèles, notamment pendant l'été.
C'est plutôt positif.
Oui, moi, je suis d'un naturel assez optimiste. Hein, donc, même en ce moment.
Oui, même en ce moment. Il le faut. Christophe Marchais, vous représentez ADN Tourisme. Je vous laisse expliquer un peu ce que c'est plus précisément. Et puis, nous expliquer comment les offices de tourisme, notamment, les collectivités locales ont joué un rôle d'information, d'anticipation, de maintien de l'économie dans certains cas, pour préparer la relance dans laquelle on est aujourd'hui, même si on s'attend à des petits coups en coin comme ça qui vont peut-être ralentir cette relance. Mais voilà, quel a été votre rôle pendant cette crise sanitaire et pendant cet été jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, en quelques mots d'abord, ADN Tourisme. ADN Tourisme, c'est le regroupement. Ça faisait à peu près 25 à 30 ans qu'on en parlait. Et finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait de façon très, très étonnante, puisque ça s'est fait le 11 mars. Donc, le 16 mars, c'était le début du confinement. Et c'est le regroupement de trois strates du tourisme institutionnel qui agissent les uns et les autres avec le même objectif, c'est de développer le tourisme sur les territoires. Ce sont les comités régionaux du tourisme, les comités départementaux et les offices du tourisme. Donc on est sur la strate régionale, la strate départementale et puis la strate locale. Et donc cette fédération s'est constituée à ce moment-là avec une publication d'ailleurs au journal officiel le 6 juin. Donc c'est une toute jeune fédération, mais c'est une fédération qui s'appuie sur des structures qui existent par contre depuis longtemps. Si on parle des offices du tourisme par exemple, c'était à la fin du 19e siècle, donc ça nous ramène très loin en arrière. C'était d'ailleurs les syndicats d'initiative et puis qui ont évolué. Et donc aujourd'hui, les offices du tourisme qui occupent le paysage. Alors en tout, c'est à peu près 1300 structures. On a 12 000 salariés hein, dans cette fédération. On touche 12 000 salariés. Et puis les budgets cumulés de l'ensemble de ces structures, c'est environ 800 millions d'euros. Donc ça répond pour partie à la question que vous posiez tout à l'heure. C'est l'action de ces structures à la fois dans le soutien, puisqu'il a fallu dans un premier temps soutenir, écouter, être aux côtés des prestataires, des professionnels, y compris d'ailleurs des professionnels ou des personnes qui étaient un peu perdues hein, compte tenu de la situation et des mesures qu'il fallait prendre pour pouvoir essayer de toucher quand même les clients, une activité qui puisse être significative. Et puis maintenant, on va être, je dirais, je rejoins complètement ce que disait Emmanuel tout à l'heure, si tant est que la situation sanitaire évolue favorablement, on va être dans une relance. Mais pour l'instant, on est plutôt dans un certain nombre de scénarios, et puis surtout, je dirais, presque un scénario qui soit le plus agile possible, de façon à ce qu'on puisse l'adapter en fonction de tout un ensemble de critères. Est-ce que l'on pourra se déplacer facilement? Est-ce que les étrangers pourront venir et franchir nos frontières? Est-ce que les transports seront à la hauteur de ce que l'on peut attendre? Puisque vous avez entendu, la SNCF diminue le nombre de ses trains pour les semaines à venir. Donc ça veut dire qu'il y a une faible fréquentation dans les trains et ça veut dire qu'il y a un impact en termes de déplacement. C'est essentiel en termes de transport. Donc voilà, nous, notre mission, c'est d'essayer de faire en sorte que dans un contexte comme celui-ci, l'activité touristique et surtout l'attractivité du territoire soit toujours significative. Donc c'est le travail à la fois d'une région qui va, et vous avez vu, fleurir sur un certain nombre de supports toutes les communications pendant l'été, où l'on vantait, à juste titre d'ailleurs, tout un ensemble d'éléments attractifs forts de telle ou telle région. Et puis on a vu aussi des communications actions faites par les départements. On a vu des actions très, très précises. Vous avez vu, par exemple, que certains départements accordaient un soutien financier aux personnes qui choisissaient de venir y séjourner. Donc, c'était le cas de certains départements qui ont été cités tout à l'heure par le correspondant. Et puis, je perds la voix, pardon. Et puis, le troisième niveau, ce sont les offices du tourisme qui ont fait de véritables actions aussi de partenariat, voire de tarifs spéciaux pour pouvoir à la fois faire venir sur leur territoire, mais aussi fidéliser un certain nombre de personnes qui découvraient, comme le disait Emmanuel et comme le disait votre interlocuteur tout à l'heure, qui découvraient ces territoires. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a vécu 2 mois de confinement et à la sortie de ces 2 mois, il y avait une véritable envie de se retrouver ensemble, c'est vrai en ce qui concerne les familles, et de se retrouver dans un environnement qui était sécurisé. Ça faisait partie des points que l'on avait relevés et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a travaillé sur un protocole sanitaire qui soit à la fois dans les offices du tourisme, qui soit aussi duplicable au niveau des prestataires pour rassurer les visiteurs sur le fait qu'ils pouvaient, d'une part, ils pouvaient voyager. D'autre part, ils pouvaient se retrouver dans des environnements qui soient sécurisés. Et troisièmement, ils pouvaient en profiter pour découvrir des régions qu'ils ne connaissaient pas forcément. Et le lac de Vassivière en est un très bel exemple. C'est à la fois une évocation de grands espaces, d'espaces naturels, d'espaces de verdure. On avait besoin de ça, surtout pour les personnes qui ont été confinées dans des espaces qui n'avaient pas de jardin. Et donc là, c'était la possibilité justement de se retrouver et de réunir tous les ingrédients possibles pour que les vacances se passent bien. Vous savez, il y a quelques années, il y avait un promoteur de voyage qui disait « on peut tout rater sauf ses vacances ». Je crois que c'était aussi une des logiques qui a présidé à certains choix qui ont été faits cette année. Mais, et je rejoins complètement Emmanuel, ce sont des réservations extrêmement tardives. C'est de la proximité et c'est parfois aussi des séjours, bien que ça n'ait pas été toujours le cas. Ce sont des séjours qui sont un peu plus courts. Et puis, ce qui a été plébiscité vraiment, c'est la montagne, c'est le rural, la campagne. Le littoral est resté quand même leader malgré tout, mais avec des différences suivant les littoraux. Et puis par contre, les grands perdants, ce sont les villes, mais les villes qui ont été affectées pour plein de raisons différentes. Pas d'événementiel, pas d'événements culturels, et puis la volonté de ne pas se retrouver dans des foules qui soient trop importantes.
Alors, ces territoires ruraux, justement, qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir beaucoup de public, ont dû nécessairement s'adapter dans leurs équipements, parce que dans le tourisme, dans les déplacements des vacances, il y a aussi tout ce qui est culturel, les équipements sportifs, les loisirs, etc. Est-ce que les collectivités locales et les offices de tourisme, notamment que vous représentez, ont anticipé pour les vacances prochaines, bon, il y a la Toussaint, peut-être les vacances d'hiver, mais l'été prochain, des investissements spécifiques dans certains équipements, mieux baliser des sentiers pour des promenades ou pour des randonnées, développer des équipements sportifs, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les pistes de réflexion des élus aussi, j'imagine, des maires de communes?
Alors, d'une part, cette réflexion, elle est pour certains élus toute nouvelle, puisqu'il y a eu en plus les élections qui se sont déroulées au mois de juin pour le deuxième tour. En tout cas, hein, certains maires étaient élus dès le premier tour, mais pour ceux qui ont été élus au mois de juin, c'est tout récent. Donc, ils ont découvert aussi le développement touristique et l'importance de leur territoire, parfois dans des proportions qu'ils ne soupçonnaient pas, comme ça a été largement évoqué. Et la réflexion, c'est effectivement de se dire, compte tenu de ce qui s'est passé cet été, et on a vu sur certains territoires, je pense au Jura par exemple, une fréquentation très importante de personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude de pratiquer la randonnée. Et donc ça nécessite à la fois de la pédagogie, ça nécessite de l'encadrement, ça nécessite aussi une information permanente qui puisse être portée par les offices du tourisme, mais par tous les opérateurs, et de façon à ce que ces pratiques-là soient des pratiques qui soient finalement, à la fin, qui soient jugées comme étant une belle expérience vécue. Et l'expérience, si on parle d'expérience en termes de tourisme, il faut que l'ensemble de la chaîne de valeur fonctionne. Et pour qu'il y ait tourisme, il faut qu'il y ait du transport, donc on puisse accéder sur le lieu où l'on souhaite aller. Il faut qu'il y ait l'hébergement, bien sûr, et là c'est important, parce que cet hébergement ait des formes différentes, mais en tout cas, qu'il y ait une possibilité, un panel suffisant important, qu'il y ait de la restauration, on en a parlé tout à l'heure, et que cette restauration soit prête à absorber un volume un peu plus important, puis qu'il y ait des activités. Ces activités peuvent être des activités autour du patrimoine, mais ça peut être aussi des activités, on l'a évoqué, autour des espaces, du patrimoine naturel. Et puis on pourrait rajouter, on espère que ça va redémarrer, tout ce qui est culturel, parce que ça nous a manqué cet été. Le nombre de festivals, le nombre de manifestations qui n'ont pas pu avoir lieu, alors que ça concourt aussi nuit complètement à l'attractivité d'un territoire. Donc le travail des offices du tourisme, le travail des comités départementaux du tourisme, c'est d'aider à la mise en place d'une offre qui soit cohérente, qui soit organisée, qui puisse être commercialisée facilement, et puis qui puisse compléter justement ce que les professionnels, les prestataires, quels qu'ils soient, de l'hébergement, de la restauration, mettent sur la table en quelque sorte pour que le séjour se passe bien. Donc c'est un vrai travail aujourd'hui qui est à mener, un vrai travail en prenant en compte des jauges ou des fréquentations qui ne sont plus tout à fait celles qu'on pouvait connaître dans certains territoires. Le département de la Lozère est un département qui là aussi a été très fréquenté, beaucoup plus fréquenté qu'il ne l'est d'habitude, et il y a une volonté de capitaliser sur cette fréquentation-là. Ça serait dommage finalement que ça ne dure pas dans le temps et que l'on ne puisse pas sur les localités, les villages, que l'on ne puisse pas continuer à avoir la fréquentation qu'il y a pu avoir cet été.
Emmanuel Maril, justement sur cette offre de logement qui est quand même le point central pour faire venir les gens, au-delà de les apporter avec des transports et de leur proposer un certain nombre d'activités, le logement en tant que tel, est-ce qu'on voit des mouvements de masse justement de nouveaux investisseurs par exemple qui viennent dans un certain nombre de territoires? Alors il y a des territoires où il y a des restrictions dans les changements d'usage des logements, etc. Mais il y a un tas d'autres territoires qui sont bien heureux de voir que cette activité se développe et qu'ils puissent retaper des logements, retaper des granges et transformer en logement des fermes. On parle de la Lozère, c'est un département historiquement agricole. Et est-ce que tout cela n'est pas une opportunité justement pour ces territoires et que toute la chaîne qui en découle, jusqu'au petit commerce, on entendait tout à l'heure dans le reportage le petit commerce, le bureau de tabac, le petit restaurant ou le grand restaurant qui a vocation à devenir grand, est-ce que pour les investisseurs, il n'y a pas une opportunité formidable de redéveloppement d'un tas de territoires qui ont été un peu aspirés par la métropolisation des 15-20 dernières années partout en France?
Si, je pense qu'il y a un... Alors, je ne vois pas encore d'investisseurs massifs arriver. C'est quelque chose qui est très diffus, donc c'est compliqué de le voir. Mais il y a un potentiel qui est formidable. Je pense qu'un des vecteurs, un vecteur important, c'est pénétration 4G, pénétration 5G, qui vont être deux sujets pour désenclaver les territoires complètement sur ce type de tourisme. Le tourisme d'aujourd'hui et de demain, c'est un tourisme qui sera hautement digital dans sa réservation, dans sa compréhension, etc., etc. Donc, je pense que ça, c'est très important. Ensuite, le transport, oui, mais enfin, on s'est bien rendu compte que cet été, le transport, en fait, était finalement assez simple. Les gens ont pris leur voiture et ils sont partis avec leurs propres moyens de transport. Donc, finalement, c'est assez simple sur un territoire comme la France. Vu le réseau autoroutier qu'on a et la qualité du réseau autoroutier, c'est très simple. Donc, en fait, le vrai enjeu, c'est l'offre à destination. Nous, on s'est rendu compte, on est présent dans 28 000 communes en France, à peu près, Airbnb. Donc, il y a une annonce, au moins dans 28 000 communes, il y a plus de 700 000 annonces. Donc, de toute façon, il y a une telle profondeur d'offre qu'aujourd'hui, on doit quasiment pouvoir trouver un logement, une maison, un petit appartement, une ferme ou quoi que ce soit dans pratiquement toutes les communes de France. C'est ça qui est assez intéressant. Et ça se fait naturellement, en fait, bouche à oreille. Donc, il n'y a pas encore une logique d'investissement massif, mais un opportunisme, finalement, une espèce de saisir la chance de se dire que, bah, effectivement, là, je suis dans un petit village assez rural qui n'avait pas beaucoup de rayonnement hein, jusqu'à présent, mais finalement là, avec ces nouvelles tendances, ben, si jamais j'ai une petite résidence secondaire, ben, je vais pouvoir la louer. Si j'ai décidé d'aller ailleurs cet été, ben, je vais pouvoir la louer, puis je vais pouvoir gagner un petit peu d'argent avec. Bon, mon exemple personnel est assez intéressant. J'ai acheté une petite maison dans le Vexin il y a 2 ans, juste pour me faire une mise au vert le week-end avec ma femme et mes enfants. Et cette maison a été louée tout l'été, parce que moi cet été, j'étais pas dans le Vexin, j'étais en Corse. Et donc pendant tout l'été, elle a été louée, et un peu comme ce que disait ce monsieur tout à l'heure, en l'espace de 15 jours fin juin, toutes les réservations sont faites immédiatement, tout l'été. Et encore là, les week-ends qui sont ouverts à la réservation, parce que là j'y vais pas mal en ce moment, pour le coup, les week-ends qui sont ouverts, ils sont réservés aussi. Et c'est vraiment un petit village, à 1 heure de Paris, mais un tout petit village. Il n'y a pas une structure d'accueil traditionnelle dans le village, évidemment. Il y a 3 Airbnb et un gîte qui est sur Airbnb. Donc vous avez vraiment c'est ça, je pense, le nouveau, ce que les Américains appellent des use cases, non, vraiment des cas d'école qui vont commencer à apparaître. Et donc je ne pense pas qu'il faille un investissement massif, mais c'est vraiment sur cette logique de bouche à oreille, d'individus qui vont de manière un petit peu intuitive et opportuniste acheter des biens, qui vont retaper. D'ailleurs, le gain fait par ces locations vont permettre effectivement d'entretenir le patrimoine.
De rénover les logements.
De rénover le logement, d'en faire des, d'éviter le côté passoire thermique, parce que si on veut les louer pendant l'hiver, il ne faut absolument pas que ce soit une passoire thermique, sinon ça coûte très cher. Enfin bref, tout ce que vous connaissez mieux que moi, Pierre. Et donc je pense que là, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Peut-être la revanche des campagnes, non ? Enfin, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un côté revanche des campagnes, en tout cas.
Bien sûr, au-delà de cette revanche des campagnes, est-ce que ce n'est pas la revanche du tourisme coûts humains ? Je dis ça par rapport au tourisme un peu de masse, un peu industriel. On note notamment ici à Paris la chute du tourisme qui est très dommageable, qui pèse beaucoup sur l'économie parisienne et de l'Île-de-France. Mais ce côté, on est aussi content de pouvoir circuler à peu près mieux que d'habitude, parce qu'il n'y a pas les gros bus à double étage qui viennent faire venir énormément de monde. Est-ce qu'on n'est pas dans un tourisme plus qualitatif, peut-être un peu plus cher au départ, mais est-ce que les gens ne vont pas être dans une recherche de moins faire exactement la même chose que n'importe qui pourrait faire ? Est-ce qu'on n'est pas dans l'expérience client parfaite, faite spécifiquement pour chaque client ?
On est dans le tourisme d'expérience, mais ça on l'est depuis quelques années. Ouais. Ça c'est un petit peu accentué. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que c'est une crise sanitaire et économique. Donc les gens ont un peu moins de pouvoir d'achat, ce qui va arriver, et ce qui est logique, et ce qui est triste. Mais je pense qu'il faut quand même que les gens puissent voyager malgré cela. Et donc le trop coûts humains, ça reste un tourisme pour quelques-uns. Or le tourisme formidable, c'est quand même le tourisme... Il y a le tourisme de masse d'un côté, et puis il y a le tourisme pour le plus grand nombre.
C'est accessible.
Oui, accessible. C'est formidable de donner la possibilité aux gens de pouvoir aller à l'étranger ou de pouvoir visiter son propre pays, de rencontrer d'autres personnes, de créer des relations avec d'autres personnes, de s'ouvrir, en fait, d'assouvir sa curiosité. C'est ce qui fait que les gens se connaissent un petit peu mieux et que le monde va un petit peu mieux. Donc moi, je trouve que je suis plutôt favorable, non pas au tourisme de masse, mais au tourisme pour le plus grand nombre. Qu'il ne soit pas, comme vous le disiez, diamétralement opposé au bien-être des populations locales. Je pense qu'à Paris, quand on... Effectivement, si on pense un petit peu au trafic, c'est vrai qu'on circule pas trop mal à Paris en ce moment, etc. C'est une façon de voir les choses. C'est très anglais de notre côté, vous voyez. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Les commerces en souffrent, les restaurateurs souffrent énormément du peu de touristes, etc. Donc il y a énormément de gens qui souffrent de cette absence de tourisme, qui n'est pas vraiment un tourisme de masse à Paris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a évidemment un tourisme colossal, mais je ne trouve pas qu'il y ait une perception de tourisme de masse. On n'est pas non plus sur... Paris n'est pas qu'une ville pour les touristes.
Bien sûr.
Encore.
Heureusement.
Comment ça viendra, mais je sais pas, mais en tout cas pas encore. Donc, mais en tout cas c'est clair que les gens aujourd'hui vont rechercher quelque chose, quel que soit le portefeuille et le pouvoir d'achat, vont rechercher une expérience où ils ont l'impression d'être les seuls à visiter le lieu dans lequel ils vont. Il y a quand même cette exigence un peu de tout le monde. On a envie d'arriver à Rome et comme si on était les premiers à découvrir la Chapelle Sixtine. Enfin, c'est un petit peu ça l'enjeu. Et l'enjeu, c'est comment on arrive à faire ça à grande échelle. C'est complexe. C'est là où, à mon avis, c'est un de nos paris chez Airbnb, en tout cas, et c'est comme ça qu'on voit un peu le tourisme de demain. Si on se dit que pour donner une expérience unique, c'est pas forcément par le lieu, mais c'est par la personne qui va vous la présenter. Et donc, plutôt que de se dire on va faire en sorte que chaque lieu soit unique, c'est chaque personne qui présentera, je dis n'importe quoi, les champs de lavande dans l'arrière-pays provençal, soit vraiment des gens du cru, des gens du coin, qui connaissent par cœur, et donc qui vont proposer une expérience avec leur... centré sur l'humain, finalement, donc quelqu'un. Et cette personne-là va rendre le truc unique.
Qui donnera le bon plan, la bonne manière de voir les choses,
exactement.
D'accéder, bien sûr.
Comment on décode, décoder une ville, décoder un quartier, une campagne, etc. C'est formidable. Moi, je me rends bien compte. Toujours, je reviens un peu, je ne veux pas me faire de la pub pour ma petite maison, avec ça, mais à chaque fois qu'on a un voyageur qui arrive dans cette petite maison, on leur dit, voilà les trucs qu'il faut aller faire absolument à côté. Mais c'est vraiment... Et moi, il m'a fallu 6 mois, 1 an pour comprendre. Donc, c'est une accélération... C'est pour donner plus rapidement aux gens des choses assez sympas à faire, quoi, juste à côté. Et ça marche vraiment très très bien. C'est ça qu'attendent les gens, en fait. Donc je pense que c'est l'humain mis au cœur du tourisme qui va permettre de créer ces expériences-là et de pouvoir le donner au plus grand nombre. Parce qu'une expérience centrée sur l'humain, c'est pas forcément quelque chose de très cher.
Non.
Ça peut être même abordable. Et donc je pense que c'est ça un peu tout l'enjeu. C'est éviter que le tourisme soit à l'encontre des populations locales. Ça, c'est formidable. C'est vraiment très important parce que sinon, on oppose les gens et là, ça devient un peu infernal. Faire en sorte que ça reste accessible pour le plus grand nombre, parce que c'est, je pense, une nécessité d'offrir la possibilité aux gens de s'évader et de découvrir d'autres territoires, et d'essayer de centrer ça sur des gens, l'humain, parce que c'est finalement la seule chose qui peut amener un supplément d'âme qui rend les choses uniques, quoi.
Le développement économique qui est lié à ces expériences justement qui sont apportées par les citoyens, par les gens qui mettent en location leur propre habitation ou un gîte qu'ils peuvent posséder dans le Vexin, on a bien noté. Est-ce que ça permet aussi à certains de se diversifier? Je pense au monde agricole, par exemple, moi qui suis fils d'agriculteur, le développement de l'agrotourisme qui existe déjà, évidemment, hein, mais est-ce que un certain nombre d'acteurs dans ces territoires, je pense par exemple à la Corrèze, pour changer un peu de département, ne vont pas se dire bah voilà, je suis agriculteur, j'ai une activité qui fonctionne, mais ce n'est pas toujours facile, je vais me diversifier et je vais m'orienter vers un gîte un peu rural, avec une activité d'agrotourisme, en montrant comment ça fonctionne, en faisant pourquoi pas participer les hôtes à cette activité. Est-ce que c'est quelque chose qui commence vraiment à monter? Est-ce que c'est bénéfique à long terme pour ces territoires?
Alors complètement, c'est la façon dont on appréhende les choses, c'est une véritable réflexion qui est en train de se faire sur le type de tourisme et les formes de tourisme que l'on veut pour demain. C'est-à-dire qu'à la fois, on vit une crise et qui est une crise douloureuse, mais qui est une prise de conscience aussi de la façon dont on veut développer le tourisme sur les territoires. Est-ce que l'on veut retrouver un tourisme de masse comme il pouvait être sur certaines destinations, ou est-ce que l'on souhaite avoir un tourisme qui soit justement plus respectueux à la fois de l'environnement, puisqu'il y a des incidences du tourisme sur l'environnement, mais aussi qui soit accepté par la population, par les populations? Ça, c'est un élément, ça a été évoqué, mais c'est essentiel. On avait vu avant la crise sanitaire, on avait vu quelques phénomènes de rejet, y compris en France. On parlait souvent de Barcelone ou de Venise, mais il n'y avait pas que à Barcelone et à Venise. Vous aviez aussi en France des territoires sur lesquels le trop de tourisme posait problème. Donc il faut vraiment qu'on fasse toute une réflexion là-dessus. Et cette réflexion nous amène à repenser complètement les territoires et à repenser l'attractivité de ces territoires. Et je fais un mouvement qui est un peu long, mais pour revenir à votre question, finalement, il faut complètement imaginer une approche du territoire qui n'était pas celle que l'on avait précédemment, où on avait tendance à s'en tenir au Tour Eiffel, hein, à mettre en avant les éléments les plus porteurs, et puis finalement oublier tout un ensemble de pans du territoire qui sont tout aussi intéressants. Et là, aujourd'hui, plus que jamais, il faut les mettre en avant. Alors, ça peut être un artisan, ça peut être un agriculteur, avec la production de l'agriculteur, ça peut être une entreprise. On travaille vraiment maintenant sur le fait de valoriser l'entreprise et de valoriser le travail qui est fait dans cette entreprise, parce que c'est du produit ici, en France, et que ce produit-là, non seulement on en explique la fabrication, mais en plus, on peut vendre le produit à l'issue de la visite. Et c'est vrai pour un artisan, c'est vrai pour un agriculteur. Au-delà de l'hébergement qu'il pourrait développer effectivement sur son exploitation. Donc on est dans une... Il faut repenser complètement cette offre. Il faut... Alors on va pas tout remettre à plat, bien sûr, hein. Il y a des choses qui vont rester. Mais en tout cas, il faut être dans une ouverture plus large que ce que l'on pouvait faire jusqu'à maintenant. Et il faut aussi avoir une véritable réflexion sur les conflits d'usage. C'est-à-dire qu'en développant certaines activités, il ne faut pas que ces activités-là viennent éventuellement gêner d'autres activités. Je pense à certains parcours, et ça nécessitera peut-être des parcours spécifiques, certains parcours pédestres qui sont aussi fréquentés par, pas des cyclotouristes, mais en tout cas des VTTistes, et qui, cette année, dans certains territoires, ne cohabitaient pas de la meilleure façon qui soit. Donc c'est vraiment toute une réflexion pour que ce développement-là puisse être effectif, et il est bienvenu dans un certain nombre de territoires pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et en même temps, il faut être extrêmement prudent sur la façon dont on veut le développer et dans quelle proportion. Mais c'est... Alors, je suis convaincu depuis très longtemps que le tourisme est un élément positif pour les territoires. Mais compte tenu des circonstances et compte tenu aussi de la planète et de la façon dont notre planète est en train d'évoluer, il faut que l'on réfléchisse à tous ces éléments-là pour que ce soit accepté par les habitants, par les visiteurs qui ont d'autres attentes maintenant, et puis bien évidemment par les élus, par tous les professionnels qui sont sur le territoire.
Alors justement, ces territoires, est-ce que ça ne va pas aussi permettre de réconcilier les Français? Alors d'une part avec le monde agricole, on a tous ces mouvements, alors qui ne sont pas forcément représentatifs, mais qui crache un peu sur ce que peuvent faire les agriculteurs, les éleveurs aujourd'hui, où c'est un métier assez difficile, qui n'est pas forcément au niveau de mise en avant qu'il devrait. Et puis, assez lié d'ailleurs avec des personnalités qui sont souvent sur les mêmes sujets, c'est la connectivité, la 5G, la 4G, la 5G qui va arriver, la 4G, la fibre, l'arrivée dans les territoires. Est-ce que ce n'est pas justement aussi cette opportunité d'aller dans ces territoires et en les connectant, en rendant le tourisme encore plus connecté et accessible, de fait, au plus grand nombre?
Alors, en ce qui concerne les agriculteurs et la production des agriculteurs, c'est une occasion donnée de faire connaître sa production, la façon dont cette production est ensuite commercialisée. Donc, cette communication-là, elle est essentielle. Mais c'est vrai aussi pour une entreprise, hein. Je serai dans quelques jours en réunion avec des organismes qui valorisent la découverte d'entreprises. Et dans ce contexte, dans le contexte dans lequel on est, c'est important parce que c'est la production française d'une part, mais ça permet aussi d'amener éventuellement des personnes vers le monde de l'entreprise, un monde vers lequel ils ne seraient pas forcément allés, et éventuellement des plus jeunes, de leur donner envie de travailler peut-être dans ce secteur-là. Donc c'est très vertueux, une démarche de cette nature-là, et la découverte d'une exploitation peut être aussi un élément moteur pour se dire, tiens, mais moi, je voudrais bien faire ça.
Appel à vocation, en fait.
Un appel à vocation. Et la relation humaine, c'est... En ce qui concerne, si on parle d'ADN, en ce qui concerne l'ADN des offices du tourisme, c'est justement là-dessus que l'on travaille, puisque les personnes qui travaillent dans un office du tourisme sont des personnes qui habitent le territoire, sont des personnes qui connaissent parfaitement ce territoire, des personnes qui connaissent les prestataires de ce territoire, toutes les activités que l'on peut y trouver. Et donc, ce sont des personnes qui peuvent donner, comme le disait Emmanuel, qui peuvent donner toutes les clés pour le découvrir, ce territoire, et qui peuvent sensibiliser aussi les habitants au fait d'être aussi des ambassadeurs de ce territoire. Et d'en parler le mieux possible, d'en parler avec leur trip, véritablement, mais de donner l'ensemble des petits plus qui feront que, pour une personne qui arrive de l'extérieur, il aura l'impression de découvrir un territoire et de l'avoir fait à sa façon, et non pas comme d'autres personnes pourraient le faire. Donc ça, c'est essentiel, la relation humaine. Nous, on est complètement à ADN Tourisme, en tout cas, on est vraiment dans cette démarche-là.
Très bien. Emmanuel Marie, vous souhaitiez réagir sur ces derniers propos?
Bon, non, moi, on est assez alignés. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que déjà, les Français sont amoureux de leur... en général, sont amoureux de leur campagne et de ces campagnes et des gens qui y habitent, agriculteurs ou pas. En général, je pense quand même, malgré tout. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je constate tous les jours. C'est juste qu'en fait, quand... On voit des prix très attractifs pour aller à l'autre bout du monde. Bah, les gens ils disent ah, pourquoi pas aller à l'autre bout du monde, c'est peut-être encore mieux. En fait, on se rend compte que bah, non, en France, c'est formidable aussi. Donc, je pense que c'est ce qu'on a vu aussi cet été. Donc, on est quand même sur un marché d'offres encore, notamment dans le tourisme rural, le tourisme vert, c'est un marché d'offres. Donc, demain, vous avez une maison qui est agréable et sympathique. Vous mettez une chambre sur une plateforme comme Airbnb ou une autre, une chambre ou la maison entière en location, elle va être louée. Ça va être loué. C'est quel que soit l'endroit, en fait. Hein, si vous êtes à une heure d'une grande ville, encore plus, évidemment, mais même si vous êtes un peu plus loin, ça va être loué. C'est un marché d'offres. Donc, la question tout à l'heure, Pierre, c'était est-ce qu'on pense que ça peut permettre de faire redécouvrir les métiers, etc. C'est évident. Ça va créer des... Mais ça va, c'est surtout que ça va répondre à un besoin. Un besoin qui, à mon avis, pour le coup, lui, va rester pendant vraiment beaucoup, beaucoup de temps. C'est le besoin de sortir des grands espaces urbains le week-end pour quelques jours avec ses enfants et vivre une expérience de retour un petit peu à une vie saine, facile, plus simple, etc., etc. Et donc je pense que vraiment, si je devais encourager les gens qui sont déjà dans nos campagnes et qui arrivent et qui ont envie d'accueillir d'autres personnes, faites-le. Je pense que c'est un bon moyen d'arrondir ses fins de mois, notamment en ce moment. Et puis ceux qui ont envie d'aller là-bas, oui, je pense qu'effectivement, il y aura cette possibilité. Il y a une possibilité de gagner de l'argent grâce à son bien, sa résidence principale ou secondaire, dans ces campagnes. C'était peut-être pas le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, enfin, dans les 10 prochaines années, ça sera probablement le cas.
Et donc on voit bien effectivement que cette crise a eu quand même des vertus de tous se poser, de se retrouver en famille et de remettre en valeur un certain nombre d'opportunités, notamment dans le tourisme, qui était le thème de notre émission aujourd'hui. Merci Emmanuel Maril, merci Christophe Marchais d'être venu à ce micro, et je vous dis à tous à bientôt.
25 millions de propriétaires. Une émission présentée par Pierre Otus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.